France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Zaya Ziwani, je suis née le 27 juin 1978 à Paris et je suis chef d'orchestre.
On a eu, Zaya Ziwani, tout le paysage de l'enfance et puis de l'apprentissage. Et il manque évidemment un grand chapitre dans cet apprentissage, c'est la rencontre avec le maestro roumain, Sergiu Celibidac. Comment se passe la rencontre avec l'homme du poster?
Ben oui, c'est ça, parce qu'en effet, je l'avais en poster dans ma chambre. J'étais une jeune ado, comme d'autres ados aussi, hein, qui grandissent en banlieue. Donc à l'époque, je me souviens très bien, c'était... la série Beverly Hills qui était à la mode. Et donc, ouais, donc j'avais les acteurs de Beverly Hills et puis j'avais Celibidac à côté. Bon, voilà, du coup, c'est rigolo. Ça ne nous empêchait pas d'être aussi des ados comme d'autres ados de l'époque. Et en effet, c'est vrai que vous avez raison. Moi, j'étais un peu dans... Pour moi, diriger, c'était quelque chose que je faisais dans mes rêves, comme on se projette dans des choses. Puis il y a eu cette rencontre où d'un seul coup, on me permet de le rencontrer. Donc c'est vrai que j'étais à la fois... très heureuse et très enthousiasmée, et en même temps de me dire, mais je vais jamais pouvoir y aller parce que je me sentais pas forcément ni légitime ou pas assez outillée. Et moi, là, ce que je voyais de ce chef d'orchestre, c'était quelqu'un de très exigeant, de très cultivé aussi, avec une vision très précise qu'il avait de la musique, une forte personnalité. Donc je savais pas si à l'époque je serais en capacité de pouvoir faire face à tout ça.
Vous avez quel âge?
Et j'ai, à l'époque, j'ai 16 ans en fait. Quand il me propose. On me dit, tiens, il y a le cours dans la semaine prochaine. Et puis, je reçois un autre coup de fil quelques temps après qui nous dit que, en fait, Celibidac, qui veut nous faire travailler les œuvres qu'il va être amené à diriger pas longtemps après, parce que c'était à l'époque où il dirigeait encore à la Philharmonie de Munich. Et au programme, c'était la 9e de Bruckner. Donc, autant vous dire que, bon... Donc, en fait, j'ai été cassée ma tirelire. Et je me souviens très bien, avec ma sœur, être allée à la rue de Rome pour acheter... le conducteur de la 9e de Bruckner, je me souviens, je l'avais, comme à l'époque, on prenait vraiment soin de. J'avais couvert la partition comme on couvre les livres de l'école. Voilà, j'avais écrit mon nom au stylo plume. Enfin, voilà, j'en prenais grand soin. Et quand j'ai commencé à ouvrir la partition, à lire, bon, il faut savoir qu'à 16 ans, même si j'étais bien en musique, en culture musicale, mais bon, voilà, c'est quand même une partition qui est très complexe à lire, très complexe en soi, en fait. Et donc, j'ai commencé à essayer de la lire, de la comprendre, de...
En 3 jours?
Ouais, en quelques jours, en effet. Et moi, de ce que je me souvenais des cours publics auxquels j'avais assisté, c'est que Celibidac, il voulait qu'on connaisse tout par cœur. Enfin, il attendait de ses élèves de diriger par cœur, de comprendre l'œuvre. Donc, autant vous dire que j'étais à des années-lumière de maîtriser la 9e de Bruckner, et tout ça par cœur, en comprenant les harmonies, les modulations, l'orchestration, donc... Donc en fait, moi j'avais commencé à travailler le début, toute l'introduction de cette symphonie en direction, à comprendre un peu les nuances, voilà, et d'essayer de me concentrer sur un petit peu la direction musicale, mais vraiment, et j'étais comme là, comme des fois les jeunes au lycée se disent, tiens, pourvu que je me fasse pas interroger sur telle leçon, là je me disais, pourvu qu'ils m'interrogent que sur le début, parce qu'il y a que le début, je connaissais.
Vous écoutiez à ce moment-là des enregistrements pour vous préparer, ou vous êtes uniquement à la table?
Non, là j'étais à la table, parce que je crois que j'avais écouté quand même, si j'avais été pu acheter, j'avais pu emprunter au conservatoire à Pantin justement un CD, je crois, de cette symphonie. Mais en tout cas, c'était plutôt, j'avais quand même beaucoup travaillé à la table. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas y aller en fait, très sincèrement, je vais jamais y arriver, je vais pas y aller, ça sert à rien. Et c'est ma sœur Fatouma qui a dit, ah ben non, tu te rends pas compte, faut y aller. Donc l'été, en fait, le maestro Chilbida qui donnait des cours, il avait un moulin à pas loin d'Orléans. Et donc c'était les cours, il les donnait là-bas. Et puis après, pendant l'année, c'était dans son appartement ici à Paris, avenue Victor Hugo. Et donc, bah, en fait, on a été en voiture avec d'autres élèves de la classe de direction d'orchestre à côté d'Orléans pour suivre ce cours, en fait. Et donc, je me souviens très bien, alors c'était une sorte d'un espace extérieur, mais qui était quand même abrité. Il y avait un piano et puis il y avait plein de chaises qui étaient installées en arc de cercle. Et puis, donc, on s'était assises. Donc, moi, j'étais à une des chaises au bout de l'arc de cercle. Et puis, ils jouaient des mélodies au piano et puis ils nous demandaient de diriger. Alors, en fait, c'était des petites mélodies un peu populaires. À un moment donné, il a fait un extrait de la 9e de Dvorak aussi, parce qu'en fait, voilà, c'était pour battre la gestique, travailler un peu certains appuis en musique. Et donc, du coup, bah, il nous demande de nous lever, de diriger. Donc, il joue sa musique au piano, puis il regarde les uns après les autres. Puis à un moment donné, bah, il arrive au bout de l'arc de cercle, là, c'était moi. Puis j'étais en train de diriger, puis d'un seul coup, il arrête, il dit « Mais qui t'a appris à diriger comme ça ?» Et moi, j'ai eu peur, hein, tellement il était presque un peu agressif dans sa façon de parler. Je pensais que, bon, il allait me dire, ne te représente plus jamais devant moi, c'est nul. Et en fait, je ne savais pas quoi répondre. Et c'est là, il y a un de ses autres élèves qui lui dit, bah, c'est Conrad qui vous l'envoie. Et je lui dis, bah, j'ai jamais dirigé. Et c'est là qu'il me dit, mais c'est fantastique, t'as vraiment de grandes dispositions. Et puis il a dit, mais tu sais, hein, je te préviens, hein, les femmes, elles n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe. Et après, il me tient un discours en disant que voilà, souvent, elle manque de persévérance. Alors, je crois qu'il y croyait un petit peu à son discours, même si de temps en temps, il rigolait, parce que je pense que c'était aussi un petit peu pour me titiller un peu. C'était un peu le bizutage de bienvenue, je pense. Et puis aussi, c'est pour m'alerter sur la difficulté du chemin. Mais bon, voilà, c'est une autre époque, c'est une autre. Mais bon, voilà, il avait quand même cette attention envers moi et à me dire bon, bah écoute, moi je veux bien m'occuper de toi, mais voilà, il va falloir t'accrocher. Et en effet, j'ai suivi ses cours pendant plus d'un an, en fait.
Vous êtes accroché. C'était pas la peine accrochée de vous le dire deux fois, de toute façon.
Non, en effet, c'est vrai. Mais en fait, c'était tellement un discours que j'avais. Enfin, j'avais l'impression d'être dans mon élément. En fait, j'ai toujours été dans cette bulle quand j'étais plus jeune où on me disait tu vas pas y arriver, ou ça va être difficile, ou d'où tu viens, d'habitude les jeunes ils réussissent pas, les préjugés sur la banlieue, sur les gens issus de l'immigration, tout ça. Donc en fait, j'ai tellement l'habitude d'entendre un discours où je savais que de toute façon ce serait pas simple et qu'il fallait se battre, que lui m'ait dit ça, quelque part, j'ai l'impression de revivre une situation que j'avais déjà vécue un nombre incalculable de fois. Donc, évidemment que je le prenais très au sérieux, mais c'est pas ça qui m'en est fait arrêter, qui m'a découragée. Et en fait, l'avantage, c'est que comme c'était quelqu'un quand même de très connu à l'époque, on a eu quand même des conditions d'apprentissage qui étaient, qui était quand même inespéré, puisqu'on avait des cours avec lui deux fois par semaine, régulièrement, toutes les six semaines, on avait des masterclass avec orchestre à la Scola Cantorum. Donc j'ai quand même pu commencer à l'apprentissage dans des bonnes conditions, et où, tout de suite avec un orchestre. Alors, bon, j'ai pas appris à gérer une répétition, mais en tout cas à gérer le lien avec l'orchestre, le son, se faire comprendre d'un orchestre. Bon, d'apprendre tout ça, ses premières connaissances de la direction d'orchestre avec Sergiu Chilibida, et c'est l'exigence qu'il avait. Pour moi, c'est ce qui a marqué pleinement ma façon de travailler encore aujourd'hui, c'est-à-dire une maîtrise parfaite de la partition. C'était quelqu'un très égocentrique, mais qui nous apprenait que d'être à cette place-là, ça se méritait aussi, qu'il fallait aussi beaucoup respecter les musiciens d'orchestre et qu'on ne pouvait pas se présenter devant eux sans être parfaitement maître de la musique, de savoir où on voulait les emmener musicalement. Et donc pendant cette année, qui était à la fois une année qui a été très déroutante pour moi, et à la fois très riche, parce que c'était cette intégration au lycée Racine, cette confrontation avec des jeunes musiciens, et qui a fait naître à la fois des moments de passion et des moments aussi de difficulté, ses cours avec Chilibida, avec toute son exigence. Donc ça a été une année très mouvementée et en même temps très riche, et qui après m'a propulsé en effet dans cette voie que j'avais envie de me construire autour de la direction d'orchestre. Et je me suis retrouvée après l'année de terminale avec le bac en poche, avec cette expérience avec Chilibida, à me dire bon, maintenant, là où je veux aller, c'est ça. Et c'était, je savais que je voulais être chef d'orchestre. Donc après, j'ai construit tout mon parcours autour de ça, avec mes études à la Sorbonne, au conservatoire, finir aussi mes études d'instrument, parce que ça, j'y étais attachée, et attachée surtout à continuer à beaucoup jouer de l'alto parce que je me suis aussi rendu compte que faire de l'alto, c'était une richesse parce que ça me permettait de jouer dans les orchestres et que c'est cette expérience-là qui a été aussi très, très, très importante dans ma vie de chef d'orchestre, le fait de découvrir l'orchestre de l'intérieur et surtout de pouvoir jouer beaucoup de répertoires.
Un extrait du film Le Jardin de Tchelibidak par son fils Johann Tchelibidaki en 1996.
Comment est le tempo?
Pour moi, c'est trop adagio.
C'est trop lent pour toi. Pour toi?
Non, je crois que
c'est bon. Bertrand?
C'est trop lent. Aussi.
Trop lent?
Un peu lent.
Vas-y.
La tête encore?
Comment tu commences? Où étais-tu avant? La partie de poker s'est terminée et on commence à diriger, n'est-ce pas? Toi! Pourquoi ce point de... Pourquoi ça? Quelle est la proportion que tu dois leur transmettre?
Un.
Un à un, oui. Comment est le tempo? Il est non. Sorti un peu plus lent de ce que tu voulais. Parce que tu ne te fais pas obéir. Il y a encore des complexes dans le geste. Encore une fois. Essaye encore une fois. Oui, plutôt. Oui, mais de quoi as-tu peur?
D'abord de vous, ensuite de...
Oui.
Tu peux
du son. Le monde est plein de dangers, ce monde, oui, vrai. Alors, fais attention aux quartiers, parce que eux, quand ils peuvent, ils mordent comme ils peuvent, tu sais, oh. Celui-là, oui. Elle, surtout, oui. Merci. Alors, vas-y.
Si on insiste sur l'enseignement de Tchelibidak, c'est important aussi de comprendre, vous arrivez visiblement, vous avez quelque chose d'instinctif pour la direction. Oui. Comment on fait fleurir cet instinct et quelle est la part aussi de l'académie, si je puis dire? Il y a une main gauche, une main droite, vous êtes tous en arc de cercle à essayer des appuis, etc. Donc il y a une méthode, il y a des choses qu'on vous apprend, une gestique, et en même temps, il y a l'instinct.
En fait, alors il y a beaucoup de choses. Moi, je suis arrivée en bout d'un cycle, puisque lui, ça faisait déjà aussi plusieurs années que certains de ses élèves étaient déjà dans la classe. Donc, quand je suis arrivée, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas reprises depuis le début. Bon, maintenant, la direction d'orchestre, c'est ça. Voilà, la main droite, ce qu'elle doit faire, la main gauche, ce qu'elle doit faire. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à observer aussi les autres chefs d'orchestre dans la classe, les voir passer devant l'orchestre aussi, à observer Tchelibidak diriger aussi. Donc c'est un petit peu comme ça, parfois en fonctionnement par mimétisme, parfois en les regardant. J'ai beaucoup regardé des répétitions à lui qui étaient filmées. Et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi dans ses cours, c'est qu'en fait, souvent, il abordait des difficultés techniques par des expériences qu'il rencontrait en orchestre. Alors, ce qui n'est pas simple, et peut-être ce qui est... pour les auditeurs ou les personnes qui ne connaissent pas la musique. En fait, le métier de chef d'orchestre, c'est un métier que l'on connaît quand on voit le chef d'orchestre au concert, mais qu'en fait, la partie peut-être la plus emblématique, la plus précieuse de ce travail, elle se passe beaucoup pendant les répétitions, parce que c'est dans ces moments-là où il faut arriver à unir les musiciens, les emmener dans une même direction musicale, fédérer toutes ces énergies, parfois avec des musiciens qui ont tous leur propre avis sur la musique. Et ça, Tchelibidak, il nous en parlait, mais quelque part, ça, on l'a jamais travaillé avec lui, puisque de temps en temps, on pouvait dire une ou deux choses à l'orchestre, mais on était surtout là. Lui, il était là pour qu'on ait une gestique qui puisse souligner la direction musicale, mais la technique de répétition à proprement parler, c'est pas des choses qu'on a apprises avec lui. Donc, il nous en parlait un petit peu, lui, dans son expérience. Mais bon, un monsieur de 85 ans qui vous parle, qui a pendant 60 ans dirigé les plus grands orchestres du monde, Évidemment que je ne dis pas que son expérience n'avait pas de valeur, elle était énorme, mais moi je savais très bien que c'est le premier orchestre qu'il a dirigé, c'est l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Moi je savais très bien que le premier orchestre que je dirigerais, ça ne serait pas celui-là. Donc forcément, on remet les choses un peu en perspective et en me disant, bon. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en le regardant diriger, en voyant des vidéos. J'ai pu aller aussi un certain nombre de fois en Allemagne le voir en répétition. Donc c'est vrai, quelque part, j'ai fonctionné beaucoup par mimétisme. Alors quand je dis par mimétisme, plutôt en observant les autres chefs d'orchestre. Et lui, il détestait. Et je dis bien, il détestait. Et c'est ça qui est un peu toute l'ambiguïté, l'ambivalence parfois des personnes qui étaient présentes dans sa classe. C'est que moi, je pense que j'ai réussi peut-être à traverser quelque part cette rencontre avec lui de façon plus sereine, parce que, alors je devais être un peu insouciante aussi, mais parce que j'ai un peu pris aussi du recul. Et que ce recul-là, c'est important, parce que j'en voyais beaucoup qui essayaient de lui ressembler. Et moi, j'ai compris tout de suite que d'un Tchilibidak, il n'y en aurait qu'un seul, donc ça ne servait à rien de ressembler à Tchilibidak. Donc en fait, quand moi je dirigeais devant l'orchestre, eh ben, il y a des fois où en effet, il y a des figures main droite, main gauche, que j'apprenais de ce qu'il nous a appris. Et puis de temps en temps, il y a des moments où en fait, je dirigeais comme je ressentais les choses. Et la plupart du temps, Tchilibidak, il disait « Ah, mais c'est ça, Zaya, elle est dans le vrai, c'est ça. » Parce que bah, quand il y a, dans une symphonie de Haydn, on sent qu'on est dans un dernier mouvement, qu'il y a une tension dans la musique, et bah, cette tension-là, moi, naturellement, je la faisais, on la voyait dans mon geste. Alors que moi, j'en voyais certains dans la classe de direction d'orchestre qui passaient des heures à essayer de faire des gestes précis en fonction de la modulation, la trajectoire de la phrase musicale. Alors en soi, c'était bien pensé, mais il y a des moments où Tchilibidak nous disait « Mais voilà, la spontanéité, elle doit être présente, là, l'instinct, ça doit être quelque chose qui doit aussi vous guider dans la musique. » J'ai quand même eu la chance de commencer avec lui, donc ça facilite quand même le chemin. Et par la suite, de continuer à me construire et de garder ce côté authentique et naturel avec la musique. Et je crois que c'est ce qui lui a plu en moi, et c'est ce que j'aime aussi aujourd'hui, c'est de garder ce côté naturel avec la direction d'orchestre.
Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est ?
Sergio Tchilibidak.
Il n'y a pas quelque chose qui peut correspondre à la définition. C'est ça la musique. Nous n'avons pas de définition. Tu me dis Mozart, c'est de la musique. Eh bien, l'erreur, c'est de chosifier, de vouloir faire de la musique un objet de la pensée. On ne fait qu'émettre des bêtises à haute voix et aussi fort que possible. Bien sûr. Et plus l'intellectuel il est fort, comme certains critiques allemands, plus ils sont idiots. Il y a de la musique dans chacun de nous. Et si on fait de la musique, on ne se rend pas compte. Quand tu te rases le matin et tu es de bonne humeur et tu chantes, voilà de la musique. Mais pas quand tu me diriges un quatuor, où tu te refuges dans la homogénéité de gestes et les laisses faire ce qu'ils veulent, les pauvres. Tu les abandonnes à leur propre sort physique.
France Musique, les grands entretiens de Zaya Ziwani.
Quelle place pour l'esthétique alors ?
L'idée du geste par rapport à l'esthétique, je crois que c'est là où Tchilibidak, parfois, il était un petit peu. C'était pas facile de trouver la limite entre qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que c'était le juste endroit du bon geste, et qu'est-ce qu'on faisait, quelle est la latitude qu'on pouvait avoir pour en effet rendre ce geste esthétique, et en fait avoir son propre discours gestuel, en fait, sa propre personnalité, sa propre grammaire. Et je pense que c'est là où parfois c'était pas simple, et quelque part, moi je me suis un peu, quand tout à l'heure je parlais de diriger de façon un peu instinctive, je crois que je me suis un petit peu imposé, alors bon, toute proportion gardée, parce que avec les quelques outils que j'avais, mais à l'époque je crois que j'ai pas trop laissé le choix ni à Tchilibidak, ni à moi-même, enfin, je n'avais pas d'autre façon de m'exprimer que comme celle-là, c'est-à-dire que Il y avait à la fois du Tchelibidak dans la façon dont il nous apprenait à diriger, et en même temps, il y avait aussi du Zayaziwani tout de suite dedans. Et je crois que c'est cette différence-là qui était peut-être avec certains autres élèves de la classe de direction d'orchestre, qui pourtant étaient très forts aussi. Hein. Par ailleurs, hein, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être trop laissé de côté cette part qui leur était propre, d'esthétique, du geste, de leur propre personnalité.
Mais ça demande beaucoup de confiance en soi. Et ça veut quand même dire qu'à 17 ans, vous étiez sûr de votre coup.
Alors oui, j'avais confiance en mon instinct, ça c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des moments quand je ressentais les choses dans la musique. Et c'est comme ça depuis que j'étais toute petite. Il y a des moments où la musique, je la ressentais, je la comprenais. Et en plus, on a commencé à diriger... le répertoire qu'on dirigeait, c'était des symphonies de Haydn, de Mozart, du Schubert aussi, du Beethoven. Moi, j'ai l'impression d'être dans mon élément, puisque c'était la musique que j'ai toujours écoutée à la maison. Donc, quelque part, c'était, comme je la vivais, j'avais l'impression de la comprendre, je la dirigeais comme je la comprenais, en fait. Il y a des moments, ça marchait très bien, et souvent, chez lui, il était très enthousiasmé par ce côté-là. Et puis, parfois, il disait non, ça ne me convenait pas. Alors, il y a des moments, il faisait un petit peu son petit numéro. Puis des fois aussi, parce que oui, j'étais pas toujours au top tout le temps. Et que je crois qu'il voulait surtout que je me laisse pas trop emporter par ce côté un peu instinctif, naturel, mais que je reste quand même dans quelque chose que je maîtrise bien. Et parfois dans cette idée où que la musique, c'est pas. Faut pas juste la rendre jolie, mais il fallait la rendre aussi compréhensible et qu'il fallait aussi avoir une bonne idée de la structuration de l'œuvre, d'où on partait, vers où on voulait aller. Cette notion de pouvoir emmener les musiciens dans une direction musicale, vraiment au sens propre du terme, pour lui c'était quelque chose d'important et ça devait pouvoir s'incarner, se comprendre dans la gestique, tout en laissant la place aussi à cette esthétique-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une gestique très énergique, mais aussi très...
Toujours une baguette.
Oui, même si aujourd'hui, de plus en plus, j'alterne entre baguette et sans baguette en fonction de la musique, parce que justement, je trouve que le rapport au son, parfois... fait qu'on n'a pas besoin d'une baguette et que j'aime bien avoir la main disponible pour ça. Maintenant, c'est beaucoup avec baguette, mais de plus en plus aussi parfois sans baguette et j'aime bien.
Vous rappelez de votre première baguette, j'imagine ?
Oui, je me souviens très bien puisque j'ai été l'acheter. C'était pour mon concert justement au lycée Racine et puis aussi pour les cours de direction d'orchestre. Mais oui, je m'en souviens très bien, une baguette... assez simple en bois, hein, toute simple, mais oui, je m'en souviens très très bien. Je l'ai gardée très très longtemps. Mais une fois, elle s'est cassée en répétition, mais je l'ai gardée très très vraiment très longtemps. Et bien sûr qu'on s'en souvient de sa première baguette.
Thank you.
Zaya Ziwani à la tête de son orchestre Divertimento ici dans Espagna de Chabrier pour refermer le 4e épisode des Grands Entretiens avec la chef d'orchestre. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Yves Lehorse, mixage Philippe Thibault, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.